Radio Cité Genève, Viviane DeWitt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois le consul général de France, Monsieur Patrick Lachaussée. Bonjour Patrick.
Bonjour Viviane.
Nous allons tout d'abord expliquer, si vous le voulez bien, ce qu'est un consul général de France pour nos auditeurs suisses.
Alors si on compare le consul général de France ici à Genève, déjà, c'est administrer, animer une communauté, la plus importante communauté française expatriée au monde. Je m'occupe de 6 cantons, les 6 cantons romands. Et nous avons à peu près entre 150 et 160 000 Français qui résident dans les 6 cantons, principalement dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève, mais également énormément de Français vivent à Fribourg, dans le Valais, dans le Jura ou dans le canton de Neuchâtel.
Et alors dans les cantons alémaniques, il y a un autre consul?
Oui, qui est à Zurich. Tous les cantons alémaniques et italophones, des Grisons et jusqu'au Tessin, c'est un consul général qui est en poste à Zurich.
Alors, je vais d'abord vous demander, c'est assez traditionnel dans l'émission, quel petit garçon étiez-vous?
J'étais un petit garçon studieux. Je passais ma vie dans les livres. Je jouais énormément de musique parce que j'ai appris le piano très jeune, la guitare ensuite, la contrebasse après. Et donc j'ai passé une enfance heureuse.
À quel endroit ?
Dans le nord de la France, dans un département qui s'appelle l'Aisne, à Laon, dans l'Aisne. Donc, et avant de partir faire des études à Reims, puis à Lille, puis à Paris.
Alors, j'en vais revenir à votre enfance, si vous le voulez bien. Que faisaient vos parents, Patrick ?
Alors, mon père était dans les assurances, il était assureur.
Assureur côté compagnie ou côté courtage ?
Côté compagnie. Donc, plutôt en relation avec la clientèle, en relation avec ses usagers, dans un domaine qui était en lien avec l'industrie agroalimentaire.
D'accord.
Et puis, ma mère s'occupait d'enfants handicapés. Elle s'est occupée d'eux pendant une grande partie de sa vie. Puis après, elle a dirigé des centres qui accueillaient des enfants handicapés. Et puis après, elle a mis en place des dispositifs d'insertion par le travail. Et donc, elle avait une équipe de formateurs, elle avait des équipes de psychologues, des équipes d'ergothérapeutes. Et ainsi, on voyait petit à petit ces enfants sortir de l'isolement dans lequel ils pouvaient être pour ensuite rejoindre des bureaux, des services, des petites unités de production. Et donc, c'était fantastique.
À quel âge vous avez réalisé ce que faisait votre mère ?
Je l'ai réalisé assez vite parce qu'en fait, j'ai partagé une partie de mon enfance avec ces enfants qui venaient de temps en temps dans notre jardin. On avait un grand jardin. Et donc, avec les animateurs, eh bien, ils jouaient au ballon, ils jouaient à un certain nombre de choses et je jouais avec eux. C'était mes petits frères, mes petites sœurs.
Vous avez des vraies petites sœurs ou petits frères ?
Non.
Donc, vous étiez enfant unique ?
Oui.
Alors au fond, c'était formidable d'avoir tous ces...
C'était fantastique.
Et c'est une dimension.
Ouais. Oui. Et puis en plus, quand on réfléchit à la situation, ça forge aussi un caractère, ça forge à des valeurs.
En quoi ça forge un caractère, racontez-nous.
C'est-à-dire qu'en fait, on est tendance à vivre un peu frustré lorsqu'on est enfant. On aimerait avoir la dernière voiture radiocommandée, le dernier jeu vidéo ou je ne sais quoi. Et puis en fait, d'être en relation avec ses enfants, eh bien... C'était simplement la richesse d'un sourire, une caresse, on se tient la main. Et là, il n'y avait pas de jouets électroniques ou la dernière découverte scientifique à acheter.
Alors racontez-nous justement l'enfance du petit garçon où vous étiez, dans le jardin des parents, à Laon.
Alors moi, mon enfance, c'était ça. C'était être en relation avec les autres. On recevait beaucoup ces enfants, mais aussi des spécialistes qui venaient nous parler, conférences, etc. Et puis, on était dans ce jardin. Il y avait, ce qui était assez rigolo dans ce jardin, c'est qu'il jouxtait le jardin d'une voisine qui lui-même avait qui était gigantesque. Et donc, avec des arbres, avec beaucoup d'arbres, avec un puits au milieu, avec... une jolie maison avec des jolies pierres. Et donc, c'était cette relation en permanence avec la nature. Et donc, ça m'a beaucoup aidé par rapport à vivre des émotions nouvelles que j'ai découvertes et que je retrace aujourd'hui dans tout cela. Et en tout cas, c'était véritablement ce jardin, c'était vraiment une école de la bienveillance. une école de la solidarité, une école de l'écoute aussi des uns et des autres. Et ça, ça me sert encore aujourd'hui.
Certainement. Et oui, parce qu'au fond, un consul s'occupe de ses compatriotes.
Oui. Alors, on administre énormément de choses. On va préparer les passeports, on va préparer les cartes d'identité, on va préparer les actes d'état civil. On organise en ce moment des élections qui auront lieu.
On va en parler tout à l'heure de ces fameuses élections consulaires.
Et puis surtout l'année prochaine, les élections présidentielles, législatives. C'est des choses extrêmement importantes dans la vie démocratique. Et puis, parfois, malheureusement, on doit traiter des situations beaucoup plus délicates. Vous avez tous entendu parler de cette petite fille qui avait été enlevée par sa maman en France, qu'on a retrouvée dans le canton de Vaud. Il y a aussi des situations sociales qui sont parfois difficiles, qui exigent beaucoup d'écoute, de l'accompagnement, de l'aide. On peut aussi être confronté à des dames qui se retrouvent dans une situation de grande précarité et de violence conjugale. Et donc, en relation avec les autorités cantonales, avec des associations, avec des autorités diverses et variées, eh bien, on aide ces dames à essayer de se sortir du piège dans lequel elles se sont retrouvées. C'est des situations comme cela qui renvoient aussi justement au rôle fondamentalement humain d'un consulat général, pas seulement le consul général, mais toute une équipe. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En gros, un consul général, pour reprendre à votre première question, c'est un peu le maire d'une grande communauté. Alors évidemment, 150 000 personnes, c'est beaucoup, mais en même temps, on essaye d'être en proximité permanente avec nos compatriotes.
J'aurais dit le père, un peu. C'était l'image qui me venait à l'esprit pendant que vous... Il y a un côté paternel dans tout ça.
Il y a un côté protecteur. Protecteur. La France apporte partout dans le monde une protection consulaire à l'ensemble de ses ressortissants. La crise récente nous a démontré également l'importance de cela, avec des rapatriements massifs de Français qui étaient en vacances. Ou qui vivaient à l'étranger, qui avaient besoin de rentrer en France. Et nous avons passé énormément de temps à écouter, informer, accompagner, aider. Et ça, c'est la dimension humaine de ce métier qui me convient parfaitement.
Patrick, on écoute Eric Satie.
Gnossienne numéro 1, interprété par Alexandre Tarot.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le consul général de France, Patrick Lachaussée, avec qui nous devisons. On a découvert ce qu'était le rôle d'un consul général de France. On a découvert aussi quel petit garçon il était, mais on n'a pas su quel jeune homme il était. Alors, après cette période du petit garçon, comment avez-vous grandi vers 13, 14, 15, quand l'adolescence pointe ?
Moi, je faisais beaucoup de rock'n'roll.
Beaucoup de rock'n'roll ?
En fait, j'ai très vite fait je faisais très vite de la musique quand j'étais petit. J'ai joué du piano, puis après je me suis mis à la guitare, puis après je me suis mis à la contrebasse.
Vos parents étaient musiciens aussi ?
Ma mère un petit peu, mais pas beaucoup.
Pas plus que ça.
Mais en fait, voilà, j'ai toujours aimé la musique. Et j'ai même quelques diplômes de piano. Et donc j'ai beaucoup fait de musique. Et donc on avait un groupe de copains. J'avais la chance d'avoir un garage à la maison. Et donc on a fait du rock dans le garage avant d'essayer de jouer au lycée pour plaire aux filles, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on s'amusait beaucoup. Et cette musique-là m'a accompagné quasiment tout le temps, puisque ensuite j'ai rejoint un groupe de jazz dans lequel j'ai joué pendant 15 ans. On a fait des concerts absolument incroyables, des premières parties de Didier Lockwood, de Stéphane Grappelli. On a joué sur des scènes.
C'était très professionnel.
C'était quasiment professionnel. Enfin, j'étais pas le meilleur du groupe. Il y en avait bien des bien meilleurs que moi, mais en même temps, on a beaucoup joué à ce moment-là sur un groupe qui était un peu particulier parce qu'en fait, on avait recréé une ambiance particulière. C'est-à-dire qu'on reprenait des standards de jazz ou des compositions et on les adaptait à la world music. C'est-à-dire qu'on avait des sonorités africaines, on avait des sonorités avec des tablas afghans, on mélangeait, on faisait un métissage musical autour des grands standards de jazz. C'est ce qui avait plu à un moment donné à Didier Lockwood, que j'ai bien connu. Et donc qui a aussi nous a permis comme ça de faire des premières parties à Reims dans les caves Pommerie, à Versailles, au festival Off aussi à Montreux, on a fait le festival Off à Jouan-les-Pins. Et donc ça nous a permis comme ça. Et puis le rock m'a toujours accompagné parce que d'une part je connais énormément d'artistes, certains talentueux, connus, d'autres qui le sont moins. Et donc à force de faire des petites scènes, des petites scénettes, eh bien, on finit par rencontrer les uns et les autres. Et à un moment donné, on se dit que finalement, la musique, ben, on n'est peut-être pas aussi bon que ça. Et donc, on va organiser un festival. Et c'est ce que j'ai fait en 2002. J'ai organisé un grand festival qui a accueilli...
À quel endroit ?
À Fossois, un peu tout petit village de 500 habitants, au sud du département de l'Aisne, pas loin de Château-Thierry, pas loin de la Seine-et-Marne que vous connaissez bien. Et là, on a accueilli chaque année entre 25 000 et 30 000 personnes.
Ah oui, c'est impressionnant.
Avec des groupes qui venaient du monde entier et qui là encore, participaient de ce métissage.
Ah, Patrick, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous arriviez à vous coopter pour faire votre groupe, tout jeune ? Comment vous avez commencé ça ?
Bah, c'est de proche en proche, les copains de classe. Tiens, tu joues de la guitare ? Ouais, toi, tu joues de la batterie ? Bah non, mais tu pourrais peut-être
tout le monde joue de la musique ?
Non, mais dans le lycée où j'étais, on y avait un peu plus de 2000 gamins. Et donc...
Statistiquement, il y en avait quelques-uns.
Alors après, on avait parfois, il y avait des atomes crochus, et puis parfois, bah, ça marchait un peu moins bien. Et puis après, les gens partaient, ils avaient une copine, alors ils arrêtaient de jouer de la musique. Ah. On en avait un autre qui arrivait. Enfin, et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Et on a continué pendant quelques années.
J'ai une autre question. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à faire des études ? On va parler de vos études, elles sont quand même assez pointues. Oui. Tout en faisant de la musique, en organisant des concerts, en organisant un festival, enfin, on fait ça comment ? Comment est-ce qu'on fait marcher ensemble tout ça ? D'abord, je vais vous poser la question des études que vous avez faites pour que nos auditeurs les connaissent.
Alors moi, ce que j'ai fait comme études, au départ, j'ai fait des études en scientifiques, en mathématiques, en physique. Je voulais être astrophysicien. Bon. J'ai un peu raté ma carrière parce que je suis diplomate, excusez-moi du peu. Mais en même temps, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et puis, à vrai dire, j'ai pas vraiment réussi mes études. J'ai pas eu de gros diplômes. Parce qu'en fait, je passais mon temps, justement, vous l'avez dit, à faire de la musique, à organiser des tas de choses, m'engager dans des associations aussi de solidarité. Et donc, j'ai butiné. J'ai butiné la physique, j'ai butiné la psychologie, j'ai butiné la philosophie, j'ai butiné...
Mais alors, vous-même, voilà. En autodidacte ou à travers...
Non, à l'université.
À l'université.
Alors, parfois, j'étais inscrit au cours, quoi, normalement. Puis parfois, ben, j'allais dans l'amphi, j'écoutais un prof qui, d'un seul coup, me plaisait. Et puis, je revenais le voir sans être
alors, vraiment inscrit. C'était quel diplôme, tout ça?
Ça
menait à quel diplôme?
Ça menait à une licence.
À une licence.
Et puis après, je me suis passionné pour l'informatique, parce qu'on commençait à rentrer dans une phase de l'informatique musicale aussi. C'était les débuts, c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans. Hein. Et donc, on commençait à avoir quelques petits programmes. Ça m'avait passionné, cette histoire-là. Et donc, ça rejoignait les mathématiques, la programmation, etc. Donc, j'ai fait beaucoup d'informatique. Et puis après, bah, il faut bien gagner sa croûte. Donc... alors, les petits boulots d'été, à l'usine...
La musique, ça rapportait un peu ou pas du tout? Ça coûtait.
Ça coûtait de l'argent. Enfin, on faisait que 1000 km par semaine pour jouer 3 concerts. On nous payait à la rigueur un cachet de 50 francs. Il fallait qu'on paye les boissons. Donc,
C'était presque une œuvre de bienfaisance.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, on va écouter un artiste vraiment qui avec lequel j'ai beaucoup travaillé depuis plus de 30 ans, qui est Brice Capel. Il a fait beaucoup de musique pour les enfants, pour les familles. Et là, il va nous emmener en voyage. Un voyage qui s'appelle Coloricocola, un pays de bienveillance, d'amour entre les hommes et les femmes, entre les enfants, entre toutes les couleurs. C'est pour ça qu'il l'a appelé Coloricocola. Brice Capel.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Couleur de ta peau ou de ton drapeau, je l'ai, j'aime tes couleurs. Car la plus jolie, vois-tu dans la vie, celle-là, couleur du cœur. Avec nous, tous et toutes, venez chantez vos couleurs. Rythme doux, rythme fou, couleur, ah quel bonheur. Oh yo 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 yo, oh yo 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 yo, couleur, 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 il faut couleur. Des éclats de fête brillent dans ma tête, mes rêves sont en couleur. Au son des tam-tams, sur le macadam, s'éveille des corps et des cœurs. Avec nous, tous et toutes, venez danser vos couleurs. Rock, salsa, begin, samba, couleur. Ah, quel bonheur. Oh yo, 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 yo. Oh yo, 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 yo. Cola, 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 rico, cola. Oh, oh. Oh yo, 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 yo. Oh yo, 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 yo. Cola, 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 rico, cola. Oh yo, 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 yo. Oh yo, 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 yo. Cola, 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 rico, cola. Oh yo, 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 yo. Coloris, coloris, cocola, 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 coloris.
Color, 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 color
colorico cola. Color, 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 colorico cola.
Vous êtes sur Radio Cité Genève dans la bouteille à moitié pleine avec le consul général de France, monsieur Patrick Lachaussée. Patrick, on va maintenant raconter comment on devient consul général de France alors qu'on est un élève, somme toute, comme il y en a beaucoup, et qu'on fait beaucoup de musique, et qu'on est passionné par beaucoup de choses. Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que l'idée a germé ou comment est-ce que le chemin s'est fait vers cette carrière diplomatique de haut niveau?
En fait, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. On est fougueux, on a envie de faire plein de choses, et puis à un moment donné, ben, il faut se concentrer sur des choses un peu plus essentielles, parce que avoir un cachet de 50 francs, comme je disais tout à l'heure, et encore 50 francs, c'est beaucoup.
Il faut les parents derrière, là.
Et il faut les parents derrière, et puis un jour, mon père m'a dit, ben, écoute, il faut vraiment que, voilà, faut que tu choisisses. Soit tu fais de la musique, mais à ce moment-là, tu ne fais que de la musique, soit tu fais autre chose, et tu fais autre chose. Et là, j'ai passé un petit moment à aider des personnes en grande difficulté sociale, des gens qui étaient perdus. C'était pour une association que je faisais ça. J'étais rémunéré, je donnais des cours. Et je me suis rendu compte que, quelque part, le service au public, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et je me suis dit, mais comment faire pour faire plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et puis, je me suis dit, je vais passer des concours pour rentrer dans la fonction publique. Et j'ai passé tous les concours que je trouvais.
Alors c'est quoi ces concours? Racontez-nous. Bah,
c'était inspecteur du travail, c'était inspecteur des affaires sociales, c'était voilà, une palette de concours. J'en ai réussi quelques-uns, j'en ai échoué beaucoup. Et puis j'ai réussi à passer le concours pour rentrer dans une école d'administration qui s'appelle l'Institut Régional d'Administration. Alors il y en a 5 en France qui prépare des fonctionnaires de haut niveau, mais de niveau intermédiaire. C'est pas l'ENA, mais c'est un peu en dessous. Et donc, je suis rentré dans cette école. Et là, il y a eu vraiment un deuxième déclic, c'est que là, je me suis mis vraiment à travailler, mais comme je le faisais pour la musique, c'est-à-dire voilà, travailler chaque devoir, chaque leçon, chaque cours, etc. Et ce qui fait que ça m'a permis de terminer ce qu'on appelle dans la botte, dans les 5
premiers.
Voilà. Et puis après, il fallait choisir l'administration. Et donc, est-ce que j'allais plutôt vers la préfectorale? Est-ce que j'allais plutôt vers autre chose? Et j'ai choisi la diplomatie. J'ai choisi la diplomatie sur un coup de cœur, en fait. Une rencontre avec un directeur du ministère qui était extraordinaire, qui est venu à un forum étudiant administration dans mon école. Et j'ai dit, c'est là que je vais aller travailler. Et j'ai travaillé avec lui comme chargé de mission. Il était mon directeur.
C'était dans quelle région?
Ben, c'était à Paris.
À Paris. À Paris.
Au Quai d'Orsay, à Paris. Et donc là, j'ai travaillé d'abord à Paris. Et puis très rapidement, quand il a quitté son poste pour devenir ambassadeur en Malaisie lui-même, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Et donc il y avait un poste qui se libérait à la direction qui s'occupe justement de tous les consulats. Ça s'appelle la direction des Français de l'étranger. Une grande direction au ministère des Affaires étrangères. Et à l'époque, il y avait une directrice qui était là, qui a pris sa retraite depuis, mais qui était extraordinaire, qui s'appelait Madame Isabelle Renoir. Et avec elle, on a monté, au tout début, tout ce qui concernait la sécurité de nos compatriotes à l'étranger. Une crise se produit à l'étranger, on met en place une cellule de crise. On répond au téléphone, on met en place des avions pour rapatrier les gens, on met en place tout un tas de choses comme cela, et on va aider nos compatriotes à se sortir du guépier dans lequel ils peuvent être dans un pays donné. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, il y a eu le drame, la tragédie des moines de Tibérine, qui avaient été pris en otage, comme on le sait, et qui, cette semaine, puisque l'anniversaire arrive cette semaine, ont été retrouvés morts en Algérie. Et avec elle, elle m'a appris une chose. Elle m'a appris cette empathie, cette compassion qui était d'être en relation avec les familles, d'être en relation avec les victimes, d'être en relation avec nos compatriotes, mais dans des conditions extrêmement douloureuses, où toutes les émotions les plus exacerbées pouvaient s'exprimer. Et donc, j'ai travaillé avec elle un bon moment. Et puis après, je suis resté dans ce service pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, j'ai géré des crises. J'ai géré le 11 septembre.
C'est lourd ça, Patrick, non ?
Très lourd, oui. Très lourd. Mais en même temps, ça avait un sens. Ça avait un sens humain profond. Ça avait un sens aussi vis-à-vis du service public, comme on peut très difficilement l'imaginer. C'est accompagner les gens. C'est mettre en place des dispositifs exceptionnels pour pouvoir les sortir du pays dans lequel ils se trouvent en danger. C'est élaborer les conseils aux voyageurs, qui est maintenant un site le plus consulté au monde. C'est également organiser la sécurité de nos compatriotes, les plans de sécurité, les comités de sécurité.
Alors, ces mesures, j'imagine, sont prises en liaison avec le pouvoir central.
Avec le pouvoir central.
C'est avec le ministère de l'Intérieur ou avec...
Non, c'est le Quai d'Orsay.
C'est le Quai d'Orsay.
Et puis...
Et le Quai d'Orsay, lui, reporte au président de la République, j'imagine.
Au chef du gouvernement. On travaillait beaucoup aussi en interministériel, c'est-à-dire avec le ministère de la Santé lorsqu'il y avait une épidémie, avec le ministère de l'Intérieur quand il y avait des problèmes de terrorisme, avec le ministère de la Justice, parce que parfois...
Vous êtes l'interlocuteur direct... Non, vous passez par le Quai d'Orsay, vous n'êtes pas l'intermédiaire.
J'étais le directeur de la cellule.
D'accord.
De crise.
Est-ce que vous pouviez vous adresser directement au ministre ou vous passiez par le Quai d'Orsay?
Oui.
Ça, c'est un grand pouvoir.
Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs chefs d'État sur des histoires d'otages extrêmement douloureuses. Et donc, de participer à des réunions à très haut niveau. Et en fait, j'en retiens beaucoup d'humilité. Parce qu'en fait, lorsque je suis arrivé ici, on m'a dit « Mais oh là là, tu vas t'ennuyer en Suisse ».
J'allais un peu poser la question, mais tout à l'heure. Parce que c'est quand même plus calme.
Oui, mais regardez ce qui s'est passé. Qui aurait pu prévoir qu'on allait vivre ce que nous avons vécu depuis
la pandémie.
Qui aurait pu prévoir qu'on allait fermer les frontières? Qui aurait pu prévoir qu'on allait devoir s'organiser, remettre en chantier beaucoup de choses, arrêter des activités, en faire de nouvelles, s'adapter, se rendre flexible? Et je trouve que ce que j'ai appris dans le passé m'a permis justement, peut-être, mes compatriotes me le diront, d'avoir plutôt pas mal géré cette situation vis-à-vis de nos compatriotes.
Formidable, ça, Patrick. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Alors, on écoute un couple de gens fantastiques qui revisitent aussi des musiques traditionnelles avec l'accordéon, avec... des guitares, c'est complètement acoustique. Alors, ils ne sont pas très connus, sauf peut-être pour ceux qui aiment justement le folklore un peu irlandais, mais en même temps très traditionnel. Et donc, ils viennent de Belgique, et donc ils s'appellent Narragonia Quartet Lilac.
On les écoute avec plaisir.
Radio, Cité, Genève. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec le consul général de France, Monsieur Patrick Lachaussée. Nous avons passé en revue, mon cher Patrick, beaucoup de choses déjà, votre enfance, votre adolescence, vos goûts pour la musique, vos études, votre passion pour l'autre. Et ça, c'est important et qui vous a mené à ce que vous êtes aujourd'hui, consul général de France. On a bien compris que la tâche est variée, immense et lourde. Et je vais vous demander, racontez-nous votre quotidien ici à Genève.
Alors, mon quotidien, en fait, c'est déjà m'occuper beaucoup de mon équipe. Parce qu'un consul général...
Elle est nombreuse, l'équipe ?
Il y a 45 personnes.
Ah oui, oui.
Un consul général n'est consul général que parce qu'il a une équipe. Parce que tout seul, bon, je peux faire beaucoup de choses, mais enfin, voilà. Et moi, je voudrais leur rendre hommage parce que, en fait, depuis un an, eux-mêmes ont aidé énormément de personnes de notre communauté, mais également aussi des ressortissants suisses et des transfrontaliers aussi. Mais en même temps, ils vivaient aussi eux-mêmes des drames personnels, familiaux, qui n'en a pas vécu cette année. Et donc, voilà, c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage. Déjà, c'est vraiment être à leur côté en permanence. C'est organiser le travail. C'est faire en sorte qu'on soit resté ouvert depuis presque un an maintenant. Parce que quand on a quand même, c'est quand même exceptionnel qu'un consulat général ferme. Et alors l'année dernière, entre mars et mi-mai, nous avons fermé. Et là, on commençait à rouvrir les portes il y a un an. Et depuis, on n'a jamais refermé. Donc c'est aussi accueillir nos compatriotes dans de bonnes conditions. C'est mettre en place des conditions d'accueil qui leur permettent de venir faire leurs prestations pour de façon sécurisée, qu'on n'attrape pas la maladie à l'intérieur du consulat, ce serait quand même dramatique, et avoir un service de qualité. Et donc, ça, c'est vraiment une des grosses parties de mon travail. La seconde partie de mon travail, c'est d'aller à la rencontre de nos compatriotes. Alors, je vais beaucoup dans les écoles, je vais beaucoup dans les universités, voir les étudiants, je suis allé également dans les entreprises, je vais dans les centres culturels, dans les espaces culturels, que ce soit
alors
ici,
uniquement français ou aussi étranger.
Suisse, français, étranger. L'idée était véritablement de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, etc. Et donc ça, c'est aussi mon petit côté curieux. Puis aussi, c'est aussi voilà, montrer l'intérêt que je peux avoir et que quelque part avec moi, mon pays a sur ce qui se passe dans cette région du monde, qui est magnifique et qui est parfois méconnu. Et donc c'est aussi pour moi l'occasion de faire remonter un certain nombre d'informations à mes autorités à Paris sur telle organisation institutionnelle, sur tel programme, sur telle festivité, sur les mesures qui sont prises pour préserver le milieu culturel ou pas. Enfin bref, sur les événements qui vont avoir lieu, sur les investisseurs suisses qui peuvent éventuellement s'intéresser à la France. Et tout cela, c'est vraiment une grosse partie du travail également. Et enfin, il y a une autre partie du travail qui est, on va dire, passionnante pour le maire que je fus il y a quelques années. Ça commence à faire maintenant, il y a presque 20 ans. Parce que là, je vais au contact avec les élus. Côté France, voisine, côté Suisse. Donc ça m'a permis de rencontrer des élus des deux côtés de la frontière, de tous bords, qu'ils soient verts, de droite, de gauche, du centre, peu importe. L'idée étant de voir comment on peut améliorer encore les relations et la coopération transfrontalière dans un certain nombre de domaines, que ce soit les échanges humains, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit les dimensions économiques, les grands investissements de transport comme le Léman Express, que ce soit les futurs investissements prévus avec le PIJ, etc. Et c'est véritablement essayer de développer aussi une atmosphère de dialogue. On n'a pas besoin de moi pour le faire, mais en même temps en temps, moi, je suis là plutôt avec ma petite burette d'huile et mon petit, ça va vous parler, mon petit tournevis de précision, pour justement améliorer encore les relations. Et je trouve que voilà, je me passionne pour ça. Et comme disait le grand chef de l'Élysée quand il tweetait, il mettait hashtag j'aime mon job, j'aime vraiment mon job.
C'est vrai, vous aimez vraiment votre job, c'est bien, c'est formidable ça. Parce qu'un homme heureux, c'est un homme qui aime son travail, en fait.
Oui. Puis je crois que
c'est la définition de l'homme heureux.
C'est ça. Et puis je trouve que moi, avec ma famille, on est ici en Suisse, on a beaucoup de chance.
Vous avez des enfants, Patrick ?
J'en ai quatre.
Quatre.
Et donc,
entre quel âge et quel âge?
Alors, il y en a des grands qui sont en France qui étudient, et puis il y a les petits qui sont avec nous ici, ils ont 9 et 10 ans, et donc, enfin 8 et 10 ans, bientôt 9 et 11 ans, et ils sont ici avec nous et on en profite un maximum.
C'est bien, les enfants, c'est la joie de la vie, le sel de la vie. Alors dites-moi, vous avez écrit aussi des livres, donc vous avez trouvé le temps, malgré cet emploi du temps extrêmement chargé, d'écrire « Revoir Fatima ». Alors, Revoir Fatima, ça a été écrit quand et quel est le thème de l'ouvrage?
En fait, lorsque j'étais étudiant à Lille, donc ça remonte. Bon. C'était il y a presque 35 ans maintenant. Peut-être même plus d'ailleurs. Ouh, oui. Et l'idée c'était, j'étais toujours impliqué dans des associations. J'étudiais, je faisais de la musique de jazz dans un club de jazz qui s'appelait le Caveau de la Treille. Et je m'occupais de temps en temps, plusieurs jours par semaine, de faire des maraudes pour une association qui s'appelait Que tout le monde connaît, qui est Médecins du Monde. Et donc on s'occupait de personnes qui étaient à la rue. Alors que ce soit des clochards, que ce soit des prostituées, que ce soit des gens qui utilisaient des drogues, qui étaient complètement perdus. Et à cette occasion, j'ai rencontré un homme. Et je raconte l'histoire de cet homme dans ce livre. Un clochard, je raconte son itinéraire, comment il est devenu clochard, comment il va s'en sortir, quelles ont été les raisons de son exclusion. Et en fait, je questionne beaucoup l'exclusion dans ce livre. Comment on devient exclu?
Alors, qui est Fatima? On va le découvrir dans le livre, peut-être.
Il faut lire le livre.
On va expliquer comment on peut acheter ce livre, parce que à l'Institut de la... Vous allez nous le redire. Donc, c'est à la Fondation Martin Bodmer.
Oui, à la librairie de la Fondation Martin Bodmer. Je l'ai auto-édité. Donc, on peut le trouver sur Internet. Donc, Revoir Fatima, Patrick Lachaussée. Et sachant que, comme je ne veux pas vraiment gagner de l'argent sur ce livre, je reverse 5 francs ou 5 euros à la Fondation Abbé Pierre. Parce qu'en fait, c'est une fondation que j'ai beaucoup appréciée, avec laquelle j'ai travaillé également, et qui aide les personnes en grande difficulté.
C'est une belle œuvre, c'est une démarche formidable. On va écouter maintenant à nouveau vos choix musicaux, qui sont bien ceux d'un musicien.
Alors c'est un duo qui s'est créé il y a quelques années, qui mêle la musique africaine, la kora du Mali avec Balaké Sissoko et la musique classique. Un violoncelliste de grand talent, Vincent Segal, originaire de Reims, et qui ont créé un album en 2009 qui a eu un très gros succès, qui s'appelle Chamber Music.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec le consul général de France, Patrick Lachaussée, avec lequel nous avons déjà bien devisé, et c'est trop triste parce que nous arrivons à la dernière partie de cette émission, on a tellement de questions à lui poser encore. En particulier, que sont les prochaines élections qu'on a appelées les élections consulaires ?
Les élections consulaires, en fait, c'est l'émanation en fait démocratique de la représentation des Français à l'étranger auprès des autorités consulaires françaises. Pour voter à ces élections, on élit qui ? On va élire des conseillers consulaires et des délégués consulaires. Les conseillers consulaires et délégués consulaires, on travaille, nous, consuls généraux, et toute mon équipe, en permanence avec eux, soit pour capter des situations que nous n'aurions pas pu voir, nous, donc ils nous font remonter des informations sur des situations ou des questions particulières que se posent un certain nombre de nos compatriotes qui n'ont pas réussi à nous joindre ou qui ont des difficultés qu'ils n'ont pas osé exprimer. On traite naturellement de questions sociales avec eux. On a mis en place dans le cadre de l'accompagnement social de la lutte contre la pandémie de Covid-19, un dispositif exceptionnel, doté de 250 millions d'euros pour l'ensemble du monde. Et donc, nous, on est à une partie de ce budget pour venir en aide à un certain nombre de nos compatriotes. Et là, dans le dialogue avec les élus, on décide d'attribuer telle ou telle aide à différentes personnes.
Mais ce sont des professionnels, ce sont
des... Non, ce sont des élus, enfin, ce sont des citoyens.
Des citoyens.
Certains sont enseignants, d'autres sont dans le privé, d'autres sont sans travail ou sont... voilà. Et en fait, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et ce qui fait qu'en fait, on a une relation très particulière avec ces personnes.
On a l'impression, on a déjà les députés, on a les sénateurs, on a les consuls, ça fait beaucoup de monde tout ça. Et maintenant c'est délégué, on ne sait pas trop bien ce qu'ils vont faire,
en fait,
comment ils vont agir, comment on va les toucher.
Pendant longtemps.
Ils ne sont pas tellement aussi pour nous contacter en nous expliquant tout un tas de choses. Ils sont tous vraiment... Bon, ils sont tous formidables, certainement, mais c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils vont faire, voilà.
Nous, ce qu'on fait avec eux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on traite des questions sociales, on traite également de bourses scolaires, tout ce qui concerne notre organisation en matière de sécurité de la communauté française. Par exemple, pendant la crise de la pandémie, beaucoup ont été en contact avec nous en permanence. On a échangé énormément d'informations. Ça nous permet aussi de diffuser de l'information vis-à-vis de notre communauté.
Est-ce que ça a été institué, ces délégués consulaires ?
Alors, ça a été en fait, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a souhaité justement qu'il savait très bien ce qu'il devait aux Français de l'étranger, depuis Londres, etc. Et donc, quelque part, il a voulu créer quelque chose qui représente aussi les Français de l'étranger. Alors évidemment, à l'époque, on n'était peut-être pas aussi nombreux. Puis bon, on était encore dans la période coloniale. Et la période coloniale, c'était pas censé être l'étranger. Et donc, mais peu importe, il a créé une première entité qui s'appelait le Conseil supérieur des Français de l'étranger. Et puis, petit à petit, avec les évolutions, le temps qui passe, etc., ça a pris de nouvelles formules. Et... À la fin des années 90, c'est devenu donc l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis, donc il y avait une partie qui était désignée par les autorités du Quai d'Orsay, une autre partie par le président du Sénat, une autre partie par... Et donc, le gouvernement...
Ça ne remontait pas.
Voilà. Et le gouvernement a décidé que ça devait changer, et d'organiser des élections pour permettre aux Français d'élire eux-mêmes leurs représentants auprès des consulats.
Et ça, c'était quand ?
Ça, on était à la fin des années 90.
D'accord.
Et la dernière évolution en date de ce dispositif remonte à François Hollande, puisque là, il a voulu élargir le nombre de conseillers et de délégués de façon...
Quelle est la différence entre conseiller et délégué?
Les conseillers sont des personnes qui participent au conseil consulaire, au consulat.
D'accord.
Les délégués constituent, avec les conseillers, la base électorale d'un certain nombre de sénateurs qui représentent les Français de l'étranger.
D'accord.
Et donc, toute cette pyramide-là, ça permet d'avoir une représentation au niveau local, au niveau du consulat, au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des assemblées qui se réunissent deux fois par an au minimum, et également avec l'élection des sénateurs qui ont un rôle politique extrêmement important.
Et ça fait vraiment remonter l'information, parce que c'est l'intérêt que ça a principalement, j'imagine.
Ah ouais. Oui. Ça fait vraiment remonter de l'information, et ça permet aussi de la diffuser. Par exemple... l'inscription au consulat n'est pas obligatoire. Et donc, on n'a pas nécessairement connaissance de tous les Français qui sont dans une autre circonscription. Moi, je sais qu'il y en a à peu près 150 000, un petit peu plus. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont ici, mais ils ne sont pas inscrits. Et donc, avec les élus, ben, ils peuvent avoir accès à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement inscrites, mais qui nous permettent ainsi de diffuser les informations, et ainsi de suite. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir un contact un peu plus serré avec une grande communauté comme celle-ci. Et donc, les prochaines élections auront lieu le 30 mai. À partir de vendredi, on pourra voter par Internet. On pourra également voter à l'urne, soit à Genève, soit à Lausanne, dans des grands centres de vote. Tout cela a été bien compliqué à mettre en œuvre et je remercie les autorités sanitaires des cantons de Genève et de Vaud de nous avoir vraiment accompagnés pour mettre en place toutes les mesures sanitaires qui s'imposent. Et donc, on va accueillir donc nos compatriotes soit au bureau de vote, soit ils voteront par Internet. Mais j'espère qu'il y aura le plus grand nombre de nos compatriotes qui prendront part à ce vote.
J'ai une question qui m'ennuie beaucoup. L'année dernière, il a été décidé en haut lieu de ne pas accepter qu'on vote à deux endroits. Je m'explique. On a tous, nous les Français, un village d'origine dans lequel on n'a pas envie d'élire le président de la République. On peut très bien l'élire depuis le pays où on habite. Mais pourquoi ne plus pouvoir élire le maire de son village ? Or, ça a été sanglant parce que ça voulait dire qu'il y avait une menace qui pesait. C'était, nous n'êtes plus considérés comme habitants l'étranger si vous votez dans votre village d'origine. C'est terrible ça, parce qu'on ne peut plus élire le maire, on est coupé de ces informations, on le coupe aussi de nous. Pourquoi couper ce lien ? Quel est le sens de ça ?
En fait, ce qui a été créé, c'est la liste électorale unique. C'est-à-dire que avant, il y avait une liste électorale à la commune, dans chaque commune, les 36 000 communes françaises. Mmh. Il y avait des listes électorales rattachées aux consulats généraux. Et c'est à la demande probablement de l'INSEE qu'on a réuni l'ensemble dans une seule.
Alors, par exemple, moi ici à Genève, je vais voter pour le président de la République. Bien, très bien. Pour les élections consulaires, très bien. Mais je serais intéressé de pouvoir continuer à voter pour le maire de mon village. Et ça, je ne le peux plus.
Non.
Voilà. On ne pourrait pas faire remonter l'information au lieu. C'est une grave erreur.
Je pense que tout le monde est bien conscient du problème. J'espère qu'on trouvera des solutions.
Alors, on ne sait jamais. Mon cher Patrick, je voudrais qu'on parle maintenant du retour du printemps. Un autre livre que vous avez écrit, un petit livre cette fois-ci.
Tout petit, oui. Et en fait, c'est ça, par contre, ce livre-là, il a été écrit en quelques heures.
En 2020.
Oui. Et en fait, c'était l'histoire d'un observateur du Quai d'Orsay, soit un diplomate, qui se retrouve dans un environnement de conflit. On ne sait pas vraiment où il est. Et il décrit ce qu'il vit, ses émotions. C'est quelque chose que j'ai un peu vécu d'une certaine façon. C'est sorti comme cela et je me suis dit c'est aussi un message plein d'humanité et plein d'ouverture, de tolérance, de bienveillance.
Alors où le trouve-t-on ce livre ?
On peut le trouver aussi à la Fondation Martin Bonnemère ou aussi sur Internet.
Très bien. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. J'avais encore tellement de questions. J'en ai quand même une dernière avant de vous quitter, si vous voulez bien. Quel est votre souhait ? Quel est le souhait le plus important du Consul général de France à Genève ?
Je crois que mon souhait, c'est qu'on puisse très rapidement reprendre une activité normale, en finir avec cette pandémie qui a fait trop de victimes, trop de mal, et accueillir à nouveau pleinement nos compatriotes à l'intérieur du consulat, dans des locaux rénovés, rafraîchis, améliorés, avec un personnel dévoué qui veut vraiment reprendre son activité. Et donc, dès que c'est possible, probablement, j'espère, le plus tôt possible, en tout cas au juin, juillet, enfin pendant l'été, je l'espère, lorsqu'on aura tous les voyants ouverts, eh bien, reprendre une activité normale.
Merci beaucoup, Patrick. Merci, Monsieur le Consul Général de France à Genève. Merci, Olivier Steinmetz, qui nous a enregistré, qui va monter cette émission. J'espère à une prochaine fois, parce que je suis sûre qu'on aura encore beaucoup de questions à vous poser. Merci.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.